Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue au podcast de la rédaction de Game Info, un podcast réaction à chaud, après, je pense qu'on peut le dire, ces conférences de folie, enfin, sauf la première, on va pas commencer à troller, donc, messieurs, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour discuter des conférences E3, et j'ai envie de vous demander, tout simplement pour commencer, pour vous, quel constructeur vous a le plus convaincu? Et on va commencer par toi. Allez, plouf, 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 ce sera toi. Dwayne.
Bon, là, on va pas être très original, vu qu'on vient de la voir et elle nous a mis une claque. Donc, c'est évidemment la conférence Nintendo, vu que maintenant, Nintendo est seul hein, dans la course au jeu. Donc, ils sont obligés de nous présenter leurs exclus. Donc, ils nous ont présenté un nouveau Zelda. On savait plus ou moins qu'il allait arriver, mais on n'y croyait pas vraiment, et donc ils l'ont présenté. Une nouvelle IP. Enfin, on va pas rentrer dans les détails maintenant, mais voilà, ils ont vraiment,
oui, c'est pas fait pour ça,
vraiment fait tout ce qu'il fallait. Pour moi, c'est vraiment Nintendo qui a raflé E3 avec Sony légèrement derrière.
Pour résumer, ATH a reçu sa liste du Père Noël, et justement, ATH, du coup, comme le Père Noël a répondu à tes attentes, est-ce que toi aussi c'est Nintendo qui t'a conquis?
Si je dis non, ça serait un petit peu mensonger. Donc ouais, c'est vraiment Nintendo qui a tiré son épingle du jeu, parce que tout ce qu'on a pu voir, c'était pratiquement que de l'exclu. Même, je crois qu'il n'y a pas eu des jeux éditeurs tiers. Donc, il y avait vraiment des jeux qui allaient tourner que sur Wii U exclusivement. Donc, c'est des jeux qu'on n'aura pas sur PC, ni sur PS4, ni Xbox One. Donc là, on peut vraiment dire que si on voulait du titre exclusif, eh ben, tu pourrais jouer que sur Wii U. Et je pense que vraiment que Nintendo, là, ils ont envoyé vraiment du très très lourd. Et en plus de ça, la conférence était très drôle avec le combat de Iwata versus Régis Fils-Aimé. tu vois, c'était une conférence qui se prenait pas très au sérieux dans ce ton-là, par rapport aux autres où tu sens qu'il y avait plein de millions en jeu, tu vois, des trailers qui claquent, le jeu il a coûté tant de millions de dollars. Là, ils ont vraiment axé ça sur l'humour, le gameplay, même si quelquefois on a eu des cinématiques, etc. Mais en général, c'est eux qui sont le mieux sortis pour moi. Après, voilà, Sony, je trouve aussi qu'ils ont fait une très bonne conférence avec pas mal d'exclus néanmoins. Sauf que après une heure de jeu, bah ils sont retombés dans leur tort en fait, à parler de blablabla, PSN, mes couilles, tout ça. S'il n'y aurait pas eu ça, je pense que les deux ça serait pas du même niveau, mais c'était vraiment une bonne conférence aussi. Sauf qu'il n'y a pas eu les mêmes exclus que sur Wii U, et c'est ça qui, je pense, met Nintendo en numéro 1 en fait.
Mamie, notre pro Microsoft.
Oui, alors, encore une fois, comme d'habitude, je vais nuancer légèrement mon propos. Au niveau des conférences, à proprement parler, je ne compte pas Nintendo, parce que c'est Nintendo, c'est facile de faire quelque chose de bien avec quelque chose de préenregistré. Maintenant, donc, en termes de conférences, pour moi, et c'est triste à dire, je le reconnais, c'est Sony, qui m'a le plus convaincu.
Non mais mamie, tu sais que t'es enregistré, là, on est en podcast.
Oui, non, je sais, mais maintenant, pour tout ce qui est des annonces, voilà, le constructeur qui m'a le plus convaincu hors conférence, enfin, si on tient pas du compte du fait que ce soit des conférences ou pas, c'est clairement Nintendo qui a mieux réussi, en tout cas, son opération com sur ce salon.
Alors, pour conclure, mon avis, alors, conférence ou pas, honnêtement, j'en ai rien à cirer, ce qui m'intéresse... c'est est-ce que je me suis fait chier ou pas en regardant une vidéo, et Sony, je me suis fait chier au bout d'une heure, même si la première heure était absolument dantesque, faut le reconnaître, même si après coup je me suis rendu compte qu'en fait les jeux qui me faisaient vraiment envie, bon, à part le nouveau jeu From Software, le reste c'était que du multi-support qui sera sur PC, donc c'est pas ça qui me fera acheter une PS4, mais franchement il y a juste pas photo, Nintendo a défoncé tout le monde, voilà, ils sont arrivés, ils ont dit: c'est qui le patron, hein? C'est qui le patron? Voilà.
C'est Régis.
C'est Nintendo. Voilà, c'est Régis. Bon. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, c'est Nintendo qui s'en est le mieux sorti. Mais par contre, pour le coup, on va inverser la situation. Qui s'en est le moins bien sorti?
C'est comme tous les ans, j'ai envie de dire, c'est EA. Parce que EA, c'est compliqué. Vu qu'ils ont toutes leurs licences de sport, tu peux pas aimer, enfin.
Non, mais c'était la même fonf que chaque année, quoi. ils se sentent obligés de faire des conférences alors qu'ils ont rien d'intéressant à montrer en fait. Enfin, on sait qu'il va y avoir le énième FIFA, le énième machin. Est-ce qu'ils pourraient pas faire leur event chaque année pour leurs fans au lieu de nous emmerder à l'E3 avec ça? Enfin,
ce qu'on peut faire, est-ce qu'on retire? Ce serait mieux, je pense, de retirer et de dire entre les constructeurs en fait.
Dans ce cas-là, on retire Ubisoft alors aussi.
Parce que ouais, il y a Ubisoft.
Dans ce cas-là, on retire Ubisoft. Alors qu'Ubisoft a fait une bonne conférence, je trouve.
Non, mais oui, mais si on retire, si on prend que Nintendo, Microsoft et Sony.
On retire juste EA. Ouais. On retire juste EA. Parce que,
bon,
franchement,
allez,
EA,
ok, juste pour dire du mal de Microsoft, on retire, non, mais, oublie, voilà, bah, c'est pour ça, je veux dire, pour pas se cacher derrière son petit doigt. Moi, je me suis horriblement fait chier devant la conférence Microsoft. Enfin, j'exagère. Disons que, sur la forme, moi, je trouve qu'ils avaient un très bon concept. Voilà, les jeux. J'avais presque envie, tu vois, de leur faire un gros bisou, leur dire merci, vous avez compris, enfin, merci. Sauf que, voilà, les jeux présentés n'étaient juste pas à la hauteur, quoi. Enfin, ça, c'est mon avis personnel. Après, tout le monde ne partagera peut-être pas. Et en tout cas, la conférence Microsoft, si tu veux, paraissait d'autant moins intéressante qu'à côté, enfin, celui Nintendo leur en roulait dessus, quoi.
Ouais, c'est clair. Qu'est-ce que j'en retiens de CGI? C'est les seules choses qui m'ont vraiment... attiré, c'est Scalebound et Crackdown, le nouveau qui serait apparemment un reboot, et sinon Halo 5, bien évidemment. Le problème, c'est, comme tu l'as dit, bon format, sauf que les jeux suivaient pas. Fable Legends, ça m'a pas du tout plu. Sunset Overdrive, j'attendais d'en voir plus sur vraiment le setting, l'histoire, ils en ont pas montré beaucoup plus. Même les trailers de gameplay qu'ils avaient montré avant étaient mieux. Donc voilà, c'est vraiment un peu déçu, enfin très déçu par la conf de Microsoft pour le coup.
Bon, même il faut que tu voilà, t'as compris, c'est toi qui vas devoir défendre cette conférence Microsoft. Oui. C'est à toi qui choisis ce rôle. Donc je compte sur toi.
La conférence Microsoft en soi n'était pas moins bonne que la conférence Sony, comme tu disais, merci Microsoft, parce que c'est, encore une fois, je parle de conférence, c'est la conférence qui a été la plus constructeur, qui a été la plus intéressante en termes de jeu. Je dirais pas fluide, mais en tout cas ouais, intéressante en termes de jeu, parce que bah, ils n'ont fait que ça. Sony a eu une coupure de 40 minutes au total sur un nouveau hardware, etc. Mais Microsoft ont présenté du jeu, et ça a été l'impression de fluidité justement venait aussi, et ben de comment dire, de cet aspect en fait où ils enchaînaient vraiment à une vitesse assez folle les jeux. Maintenant, c'était intéressant, mais le problème, et c'est, je pense, la remarque qui est le plus sortie quand on l'a regardé tous ensemble, c'est qu'il y avait énormément trop de CGI et très peu de gameplay, et le gameplay qu'ils nous ont montré n'était pas transcendant. C'est-à-dire que, pour moi, il y a eu deux temps forts voulus, je pense, dans la conférence, qui étaient Sunset Overdrive et le Master Chief Collection. Le Sunset Overdrive, on a eu du gameplay, ça y a pas de souci. Mais on était tous devant en train de se demander un peu qu'est-ce qu'on regardait. À mon avis, ça incombe plus au jeu qu'à la conférence, parce que le jeu a l'air extrêmement fouillis, on comprend pas ce qui se passe. Maintenant, Microsoft en soi a fait pour moi une excellente conférence. Le côté chiant a été imputé au fait que ben c'était des jeux. C'était pas des jeux transcendants, quoi. C'était c'est pas qu'on s'en foutait, mais beaucoup de CGI. Ils nous auraient présenté, par exemple, un peu de gameplay du nouveau Tomb Raider. Là, je pense que déjà, il y aurait eu un intérêt un peu plus gros, si vous voulez. Après, les phases de gameplay des jeux qu'on a vus n'avaient pas ce petit côté qui vous coupait le souffle de certains jeux qui nous ont été présentés ensuite par Sony. Aussi, enfin, en dernier, je pense que Microsoft n'a pas de chance sur un point, c'est que c'est eux qui lancent la vague des conférences de l'E3. Et le problème, c'est que bah forcément, c'est la première impression, et on a tendance à très vite oublier. Il se passe à peu près 8 heures, je crois, ou 8 ou 9 heures entre la fin de Microsoft et le début de Sony. Ce qui fait que Sony profite de cet effet un peu d'être le dernier de la journée, et surtout d'être passé après des conférences médiocres, voire assez passables, notamment celle d'EA et celle d'Ubisoft, qui... Ubisoft n'était pas mauvaise, mais voilà, c'était pas transcendant non plus. Donc Sony a cet effet-là un peu de « on vous redonne un nouveau souffle », tandis que Microsoft, c'est eux qui lancent la machine, et c'est, à mon sens, plus dur de lancer la machine que de terminer le bal, quoi.
ATH.
Alors, pour ce qui est de la conférence Microsoft, moi j'ai trouvé que c'était une très bonne conférence. Malheureusement, tous les jeux qu'on a pu voir qui m'intéressaient, c'était des jeux multi-support en fait. Parce qu'on a vu The Witcher 3 qui m'intéresse beaucoup. Il y avait Assassin's Creed qui défonce la gueule qu'on a pu voir à la conférence Microsoft, il me semble. Après, tu vois, c'est triste à dire, mais la seule exclu qui m'intéresse sur Xbox One, c'est le prochain jeu de Platinum Game, parce que c'est Platinum Game, quoi. Mais après ça, Crackdown 3, ça m'intéresse pas trop. Sunset Overdrive, ça a pas l'air foufou non plus. Et Halo, c'est un remake, et je suis pas fan de Halo. Halo, j'ai essayé d'y jouer, j'ai jamais compris l'engouement pour cette série, c'est pas mon style de jeu, donc là, les jeux qui m'intéressent le plus, comme j'ai dit, c'est voilà, c'est vraiment du multi-support que je pourrais avoir sur PlayStation 4. Et malheureusement, il n'y a pas un gros titre qui me fait dire la Xbox One, il me la faut pour ce jeu-là. Tu vois, parmi s'ils auraient montré un nouveau Gear of War, là, j'aurais été vraiment content, ou bien, tu vois, même une nouvelle IP de cet acabit-là, un truc qui envoie du lourd, techniquement bluffant, avec un...
Bah ouais, vu qu'on était censé voir en plus la nouvelle IP avec leur studio là, Black Tusk, donc
voilà, donc malheureusement c'est ça qui manquait. Je pense que s'il y aurait eu plus d'exclusivité propre à Microsoft, il n'aurait pas eu à rougir face à Sony en fait.
Alors moi, le truc qui m'a gêné, bon, déjà cette conférence a confirmé une chose pour moi, c'est que le 3 en fait c'est pas tellement un salon pour moi. C'est-à-dire que les Call of Duty, les machins, enfin c'est pas des jeux qui me parlent. Moi, je suis plus un client de la Gamescom ou de la PAX East, tu vois. Enfin, c'est des jeux. Il y a des jeux généralement qui sont présentés là-bas qui me parlent plus, parce que Gamescom c'est plus un public PC et la PAX East c'est plus les indés, etc. Qui ont plus de jeux qui m'intéressent, quoi, globalement. Le problème que j'ai eu avec cette conférence, c'est que les seuls jeux qui auraient pu m'intéresser, comme tu disais, le titre de Platinum par exemple, CGI. Voilà, enfin, c'est super les CGI, hein, mais à un moment donné, moi j'aimerais bien voir du gameplay.
Ouais, c'est pour
quoi.
Ça que j'ai dit que c'est pour ça que j'ai dit que c'était triste à dire, parce que le titre qui m'intéresse, c'est le plus, c'était celui de Platinum, mais malheureusement, tu vois, c'était CGI et j'aimais juste parce que c'était Platinum, pas parce que ça aurait été on aurait vu le même CGI, ça aurait été Petaochnok Studio, tu vois, j'en aurais eu rien à foutre parce que ça aurait été une CGI.
Après, il y a un autre jeu qui m'a fortement intéressé, c'est la Master Chief Collection. Parce que j'aime beaucoup Halo, hein, tout le monde le sait ici, mais après c'est pas ça qui va me faire acheter une Xbox One, faut être réaliste deux secondes, quoi. Je veux dire, les jeux je les ai déjà retournés à un moment donné, voilà. Mais il faut reconnaître que sur la Master Chief Collection, ils m'ont bluffé, parce que il y a un vrai travail de remake qui a été fait et que il faut saluer. Le reste, je veux dire, enfin déjà, c'est sur Call of Duty, je crois qu'ils ont ouvert la conférence, il me semble.
Oui, c'est ça.
Ouais. Et le Call of Duty, mais je vous assure, ils ont commencé sur ça, mais j'avais envie de me tirer une balle, quoi. Un jeu mou, un crevé, putain, mais qui ferait passer Stalker pour un pour un fast FPS. Voilà, le reste, c'est pas des jeux qui me parlent, c'est pas des jeux. Bah évidemment, il y avait The Witcher 3, mais The Witcher 3, ça, c'est surtout, ça va sortir partout. Je vais l'avoir sur mon PC, donc l'Xbox One, bon, voilà. Après, ça apporte quelque chose à la conférence, c'est sûr, mais ça manque d'une exclusivité. Alors que Sony, bon, mine de rien, moi, la conférence Sony, après coup, je me suis dit que quand même, il y avait pas mal de jeux multi-support, et que ce qui a fait la qualité de cette conférence, c'est qu'il y a des jeux qui ont été dévoilés, qui sont multi-support, mais dont on n'avait pas entendu parler. Par exemple, le nouveau Dead Island, qui a rendu Mamie tout fou pendant la conférence, par exemple, oui. À tout hasard. Le Project Beast, bon, alors là, pour le coup, c'est une vraie exclue, mais le problème, c'est que on n'a pas vu de vidéo de gameplay, en fait. Je crois que c'est un ami à Mamie qui nous disait tout à l'heure que c'était une escroquerie. C'est pas loin, faut quand même avouer. Après coup, je trouve que la conférence de Sony, elle doit quand même pas mal aux éditeurs tiers. Voilà, parce que clairement, ok, je veux bien que Little Big Planet ça intéresse les fans, mais clairement ça c'est pas du tout ma cam, donc c'est pas ça qui m'a parlé, c'est vraiment les jeux multi-support. Donc au final, évidemment, pourquoi c'est Nintendo moi qui m'a retenu, parce que bah voilà, Nintendo, malheureusement pour eux, ils ont pas le choix. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas compter sur les éditeurs tiers. Donc, ils doivent se sortir les doigts du cul, si je puis dire. Et, bah voilà, ils se sont sortis les doigts du cul. Et, c'est pour ça que, pour moi, en tout cas, ils se sont vraiment, vraiment démarqués du reste, parce que c'est dérythmé. Alors certes, il y a des moments où je râlais parce qu'ils racontaient leur vie comme d'habitude, mais ça, globalement, faut dire ce qui est, c'était le moment le plus rythmé chez les trois constructeurs, quoi. Bon, après cet état des lieux vite fait, honnêtement, je vois pas l'intérêt de faire un bilan détaillé de chaque conférence, d'autant plus que c'est un podcast réaction à chaud. Pour le détail, on verra ça en fin de semaine. Je voulais tout simplement vous demander quels titres vous ont marqué durant toutes les conférences, pour le coup, hein, que ce soit Ubi, machin, bidule. Quels titres qui ont été annoncés, sur tous les titres qui ont été annoncés, quels sont ceux qui vous ont fait le plus d'effet?
Dwayne,
qui commence?
Dwayne,
alors bah déjà effectivement sur je vais faire conférence par conférence, donc avec Microsoft, donc il y a eu comme j'ai dit, je suis vraiment fan inconditionnel de Platinum, donc Scalebound dans tous les cas, l'idée me plaît beaucoup, donc c'est vraiment un jeu qui m'a marqué dans le sens où t'as cet effet vraiment de où tu sens la grandeur du truc avec les espèces de kaiju et tout, cet aspect un peu japonisant qui me plaît beaucoup. Donc j'attends vraiment de voir du gameplay et ce qu'ils vont faire avec cette IP là. Donc c'est vraiment la seule chose qui m'a vraiment marqué chez Microsoft, avec Assassin's Creed bien sûr, mais là c'est donc une IP d'Ubi. Donc Assassin's Creed, après voilà, avec Watch Dogs, le petit downgrade graphique qu'on a pris dans la tête. Donc j'attends vraiment de voir. En tout cas, ça donne envie. Le setting vraiment français. La Révolution, ça fait vraiment ça fait longtemps qu'on l'attend de toute façon. Donc voilà, c'est Assassin's Creed aussi, c'est une IP que j'attends beaucoup. Et pour Sony. Chez Sony, franchement, Project Beast, effectivement, parce que c'est vrai que Dark Souls, c'est une série qui me plaît pas mal. Donc, ce qui m'embête, c'est qu'ils aient pas montré de gameplay, sachant qu'il y en avait, on avait quand même une petite séquence de gameplay qui avait leaké. Donc, j'attendais vraiment s'ils l'annonçaient d'en avoir. Et voilà, ce sont vraiment les jeux qui m'ont marqué pour les premières conférences. Et chez Nintendo, ben évidemment le nouveau Zelda qui fait plaisir, et puis Splatoon qui concrètement moi m'a vraiment plu. Et
alors pour ceux qui savent pas ce que c'est Splatoon, voilà, c'est une nouvelle IP Nintendo qui a l'air de mêler un peu de l'action, de la stratégie, d'ailleurs, je crois, a fait son effet chez tout le monde ici, il me semble. Mamie, tu avais l'air particulièrement enthousiaste d'ailleurs.
Oui, ben Splatoon, c'est déjà la surprise, parce que comme disait Dwayne, on s'attendait pas à une nouvelle IP forcément. Mais une nouvelle IP, pas une nouvelle IP tirée d'ancienne IP, hein, c'est une vraie nouvelle IP. Et là, on arrive sur Splatoon. Ce qui nous a particulièrement, on va dire, charmé dans le jeu. Après, c'est des formations encore une fois de GD, je suppose. C'est le gameplay, c'est-à-dire que c'est quelque chose au final. Bon, en soi, c'est un jeu compétitif 4 contre 4 ou 5 contre 5, peu importe. L'utilisation de la peinture, parce qu'en gros voilà, on jette de la peinture avec des pistolets à peinture, ça peint le sol et les murs, et on a une capacité de se transformer en pieuvre, c'est ça, un truc du genre.
Oui.
Et quand on est en pieuvre, on peut glisser dans la peinture, du coup on va plus vite, mais ça nous permet aussi par exemple de grimper au mur. C'est voilà, on suit la trace de peinture. Et ce qui s'est dit pendant la conférence, notamment tirant, etc., c'est toutes les implications stratégiques, etc., qui peuvent être très intéressantes. En plus, il y a une gestion, encore une fois, intéressante. Pour une fois, je veux dire, hein, pas encore une fois, mais pour une fois, intéressante, donc, du gamepad de la Wii U, avec tout un système. Ben, on voit la carte stratégique, on peut mettre en place des trucs, on peut sauter sur ses, euh, ses coéquipiers pour traverser la map, etc., pour aller plus vite, pour éviter des situations difficiles, etc., ou faire des attaques en force. Enfin voilà, c'est étonnant pour un jeu Nintendo d'avoir une telle profondeur de gameplay pour un jeu encore compétitif. Et ouais, c'est très très intéressant, et en plus le design, la DA, etc., colle parfaitement à l'univers et sert complètement le gameplay, et c'est pour ça que c'est un jeu extrêmement intelligent, inattendu, et ça fait du bien pour la Wii U. C'est pour ça qu'on était vraiment, on était vraiment dedans tout à l'heure.
D'autres jeux, Dwayne?
Ben sinon Far Cry 4, mais là c'est vraiment en tant que fan du 3, effectivement la verticalité un peu du des nouveaux décors en montagne, c'est vrai que j'avais envie de voir de quelle façon ils allaient gérer ce type de décor, d'univers, vu que on était vraiment sur une île. Donc avant on avait des étendues, et là en montagne on est sur des routes un peu plus restreintes. Là, voir comment ils allaient gérer, et si on allait avoir une vraie verticalité au niveau des décors. Donc ce qui a l'air d'être le cas, donc assez impatient pour Far Cry 4 aussi.
ATH, toi qui as pas mal retourné le 3, il me semble, ça faisait envie ou pas?
Le Far Cry 4, ouais. Non, un petit peu moins que le 3 en fait, à vrai dire. Parce que le 3, ce que j'aimais bien, c'était vraiment l'aspect paysage paradisiaque, les îles, etc. Mmh. Et là, ce que j'ai pu en voir, c'était similaire au 3, mais dans les montagnes. Après, c'est sûr que la vidéo, tout ce qu'on a pu voir, ça faisait envie, mais c'est un jeu que voilà, j'attendrai d'avoir les retours utilisateurs d'abord, et peut-être une baisse de prix, à part si je vois un truc vraiment qui me donne vraiment envie de l'acheter, parce que j'ai même l'impression de voir de revoir Vass en fait dans le skin du personnage, sauf qu'il a changé de look et qui maintenant
du méchant, tu pas
ouais le méchant que le grand méchant du jeu, parce qu'en fait ils ont dit ouais bah Vass ça a super bien marché, bah maintenant qu'est-ce que je vais faire, bah je vais remettre un personnage totalement psychopathe dans le jeu, et voilà, et malheureusement ça me donne moins envie en fait. Et après j'admets que le jeu techniquement, ce qu'on a pu voir, c'était superbe et tout, les possibilités de gameplay sont toujours aussi ont l'air toujours d'être aussi ouvertes, mais non, je pense que je passerai mon tour pour Far Cry 4.
Alors juste pour vous donner le contexte de Far Cry, parce que moi c'est vraiment un jeu qui m'intéressait aussi parce pour sa verticalité notamment. Je trouve ça très bien que les FPS se mettent enfin à avoir plusieurs niveaux comme ça. Il y a un truc quand même qui nous a un peu fait tiquer, c'est que il faut savoir que la vidéo avait été leakée avant la conférence. Et donc on savait déjà à quoi s'attendre, quand on va dire. Et le truc, c'est que Dwayne, le compagnon de beuverie de Mamie Lamie, ont remarqué que apparemment il y avait quelques détails qui différaient d'une vidéo à l'autre. Alors moi je vous avoue que personnellement j'ai pas vu, mais de ce qu'ils disent, il y avait
par exemple quelques détails. Au niveau
scoop exclusif. Dwayne a vérifié aujourd'hui pour se rendre compte que c'était bien une vidéo différente.
Non, c'est ça. Au niveau en fait, lorsqu'il tire avec l'arbalète sur la vidéo leakée, donc il est en haut de la plateforme, tandis que sur celle qu'on a vue pendant la conf Sony, par exemple, pour te donner un des détails, hein, il est vraiment au sol, quoi. Lorsqu'il tire.
Oui, donc voilà. Pour résumer, il y a des détails qui diffèrent d'une vidéo à l'autre, et du coup, Mamie a fait la remarque, mais. Enfin, lui, il espérait, pour le coup, il me semble que ce soit pas le cas, parce que si c'est le cas, ça veut dire que c'est ultra scripté quand même, là.
Disons que c'est vrai que, voilà, dans la première vidéo qu'on a regardée, en ne se doutant pas, pour le coup, moi, je me disais pas qu'on allait la revoir juste derrière. Il y a donc des commentaires développeurs, et notamment, pendant 30 bonnes secondes, l'un des développeurs principaux parle notamment de l'IA des animaux. Ouais. Qui a été augmenté et surtout qui communique de l'une à l'autre. Faut savoir qu'en termes d'IA, c'est très intéressant ça, comme système. Après, c'est vrai que il prenait l'exemple donc de cet aigle qui fonce sur un mouton ou une chèvre, pardon, qui fonce sur une chèvre et qui la chope au vol et dit voilà, parfois c'est possible que En repassant par là, vous ne voyez pas cette même chose et ça permet à chacun d'avoir une histoire différente, etc. La deuxième vidéo se lance, celle de la conférence, et qu'est-ce qu'on voit ? L'elfe qui chope une chèvre. alors que c'était pas la même vidéo.
Ouais, mais il faut savoir que nous, pour le coup, à part Dwayne
et Olivier, donc.
Et Olivier, voilà, nous on pensait que c'était la même vidéo en fait, parce que il se passait tellement la même chose que, enfin, voilà. Donc c'est vous dire le souci que ça pose, quoi.
Mais après, peut-être que je peux faire l'avocat du diable, c'est-à-dire que là, en tant que présentation de l'E3, ils ont fait un truc vachement scripté pour en mettre plein la vue aux joueurs. Et que, parce que par exemple Far Cry 3 c'était pas du tout scripté comme jeu. Là je pense que c'était vraiment pour mettre tu vois, mettre l'eau à la bouche aux joueurs et montrer les trucs voilà, un peu hollywoodien entre guillemets, des trucs un peu spectaculaires pour que ça, ouais, c'est punchy à montrer en vidéo.
Oui, mais c'est du mensonge.
Ah oui, non, mais, enfin, non, mais, attends, oui, je te rappelle Watchdog, mon gars. Alors... Je te rappelle Watchdog. Pour le mensonge.
Non, mais c'est une vidéo concept, ouais. Quoi. C'est pas une vraie vidéo gameplay.
Alors c'est pas nécessaire, pas nécessairement, je veux dire. On en a discuté après plusieurs minutes avec Olivier. Donc il faut savoir que lui et moi on a fait pas mal d'informatique avant. Du coup le développement d'IA, on connaît un peu comment ça fonctionne. Et après on a discuté. C'est vrai que finalement ce qu'on appelle ça une KSP, c'est un truc vendeur. Ce KSP là de l'IA des animaux vachement amélioré et tout, qui mettent en avant. Effectivement est possible, mais comme on se disait finalement après avoir réfléchi, si les paramètres d'entrée de la vidéo, du passage qu'ils prennent en vidéo sont les mêmes pour l'une et pour l'autre, c'est possible qu'effectivement, comme c'est quand même des IA, ils aient les mêmes comportements, si vous voulez. Si par exemple c'est forcément ça, c'est une démo qui a été faite pour la présentation E3. Si tu lances la démo à l'exact même instant, c'est-à-dire que en gros tous les paramètres informatiques qui sont derrière sont les mêmes au départ, ça peut donc faire en sorte que les IA soient partis avec des générateurs aléatoires qui partent du même point et donc qui vont arriver au même point dans un temps très court, ce qui peut expliquer que pas mal des comportements d'animaux soient similaires sur une partie ou sur l'autre. Donc c'est pour ça que, c'est pour rejoindre un peu ATH en se faisant un peu l'avocat du diable, c'est possible que comme c'est une démo et que donc tous les paramètres sont les mêmes au tout départ et que la durée de la vidéo finalement n'est pas très longue, il n'y ait pas tellement de différence au niveau du programme informatique et donc que l'aigle aille sur cette chèvre. Donc sur ce point-là, au début je l'ai démonté pendant la conférence, je me suis dit c'est n'importe quoi, et c'est vrai qu'après avoir réfléchi 2 secondes d'un point de vue technique, et c'est Olivier qui m'a fait penser à ça. Effectivement, ça peut être tout à fait justifié, tout en conservant le fait qu'effectivement l'IA est balèze, quoi.
Bon, ATH, Assassin's Creed, j'imagine.
Ah oui, Assassin's Creed, franchement, parce
oui.
que ah non, parce que c'est pas
oh oui.
c'est Paris.
Assassin's Creed.
Ah mais attends, oui, je vous rappelle que j'ai quand même démonté pas mal Assassin's Creed 3 à sa sortie, donc on va pas me traiter de fanboy de Assassin's Creed. Mais là, franchement, je pense que vous tous ici ne peuvent pas me dire que ça ne vous a pas fait envie de voir cette vidéo de gameplay de Assassin's Creed. C'était vachement beau.
Les deux vidéos de gameplay, je précise, parce qu'on a eu une vidéo en coop, qui est la première vidéo qui a été dévoilée, qui envoyait quand même pas mal du lourd d'ailleurs, et une vidéo en solo durant la conférence Ubisoft.
Voilà, et donc moi, déjà le jeu en solo, rien à dire, c'est toujours... aussi bien travaillé au terme d'animation du personnage, l'aspect escalade qui est toujours là, enfin tu vois, du Assassin's Creed classique finalement, mais sauf que ça se passe à Paris. Et le truc qui m'a fait encore plus saliver, c'était le fait que on pouvait jouer à 4 en coopération à Assassin's Creed, et là je me suis dit j'espère que ça va pas être trop mal implanté, mais moi ça me donne vraiment vraiment envie d'explorer les toits de Paris avec des amis à moi.
Et le solo, convaincu ?
Bah le solo, c'est voilà, ça reste classique finalement, hein, dans l'approche de Assassin. Après, j'espère que surtout en termes d'IA et les combats qui qui sont un peu le point noir pour moi de la série, changent pas mal, parce que c'est vrai que l'IA dans Assassin's Creed, elle est un peu à la ramasse. Là, j'aimerais bien avoir un peu plus, tu sais, d'interaction avec les environnements et que surtout que l'IA arrête de d'être con quoi tout simplement.
Ouais,
et
ouais,
que...
c'est con en plus quoi. Warner Bros les a copiés avec le Seigneur des Anneaux, ils auraient bien pu prendre le système de combat de Batman.
Et ouais, ouais, et le système de combat, bah là malheureusement c'était trop court pour que je me rende compte si les mecs ils faisaient la queue. Voilà, parce que c'est juste ça qui me dérange dans Assassin. Et sinon, à part ça, c'est sûr que techniquement c'est très très lourd. Et j'espère, mais alors là, j'espère pas du tout que c'est du bullshit, parce que là, je vais péter un câble.
Bah non, parce que pour expliquer un peu le contexte, quand même, faut voir que la vidéo solo, notamment. Ah, il y avait du peuple.
Il
hein.
y avait du peuple et
c'est qu'à le dire. Hein.
Les effets de brume, etc. aussi.
Ouais, aussi.
Ça, je me rappelle, dans Watch Dogs, dans la boîte de nuit, on avait ces effets-là et dans la vidéo de le 3 2012 et quand j'ai joué en 2014 sur ma PS4, il y avait pas du tout ça.
Bon, après, comme l'expliquait Mamie, bon, cette fois, c'est quand même de la vraie next-gen normalement.
Ouais.
Donc bon.
C'est exclu PS4, Xbox One et PC, donc pas de old-gen.
C'est ça. Mamie, t'en penses quoi?
Voilà, on va pas se cacher, Assassin's Creed Unity, forcément, dans nos petits cœurs de français, ça nous fait quelque chose.
Ah oui.
de pouvoir jouer à Paris, surtout dans le Paris de la période, l'une des périodes, comme il le disait à la conférence, la plus intéressante et la plus charnière de l'histoire, à savoir 1789, la Révolution française et toute la terreur qui suit, vu que la deuxième phase de gameplay où il fallait tuer, si je ne dis pas de bêtises, c'était un certain capitaine Xavier, voilà, qui c'était pendant la terreur. On venait de tuer Marie-Antoinette, donc c'était en 1793 dans cette vidéo-là. Juste avant, il y avait une période, c'était le 14 juillet 1789, où il fallait viser le marquis de Bouillon. Voilà, c'est des choses forcément qui nous touchent plus. Rien que dans le contexte historique, forcément, tu touches à la France de 1789. Tous les Français vont se dire, ah ben, il faut que j'essaye, quoi. C'est quelque chose, voilà.
Après, on est fiers comme des parents.
Oui, non, mais c'est normal. Et je suppose que les Italiens étaient contents qu'on touche à la Renaissance, quoi. C'est un effet un peu logique, j'ai envie de dire. Maintenant, en termes de gameplay, moi, il y a plusieurs choses qui m'ont marqué. Donc déjà, c'est ce coop à 4, qui apparemment donc touche des missions spécialement designées pour, d'après ce que j'ai pu comprendre.
Ouais, c'est pas genre on prend le mode solo et puis voilà. On va te mettre 4 mecs et puis bon courage.
Alors c'est à prendre avec des pincettes, puisqu'à la fin de la vidéo solo, on avait les 3 autres assassins qui arrivaient derrière. Donc ça, je ne sais pas. Mais par contre, il y avait une crainte que j'avais qui s'est envolée avec la vidéo solo. C'était la crainte qu'à un moment il fallait switcher entre les assassins parce que ils avaient clairement des capacités un peu propres. Apparemment, en tout cas, c'est pas le but avoué du développeur. Donc, j'ose espérer que tu puisses choisir ton assassin préféré, limite, ou alors que tu puisses spécialiser ton assassin. J'en sais rien, pour avoir ces capacités-là ou faire appel, etc. Mais en tout cas, apparemment, pas de switch. Parce que Assassin's Creed, où tu commences à switcher personnage, ça devient n'importe quoi, et apparemment c'est pas comme ça. Dans le gameplay, la chose qui m'a le plus marqué, finalement c'est pas du gameplay, c'est surtout la qualité d'animation de parcours.
Ah oui,
du personnage. Il y a des animations, donc encore une fois, moi je n'ai vu que de brèves vidéos d'Assassin's Creed 4 et 3, parce que moi j'en suis encore qu'à Revelation, mais en tout cas, les animations de parcours, donc c'est Arnaud, si je me rappelle bien du prénom du joueur, de l'avatar, c'était pour moi bluffant. Il fait des tours sur lui-même pour choper des bouts de mur en descendant, etc. Enfin, c'est pour moi, voilà, c'était beau. C'est la première fois dans Assassin's Creed où, pour moi, ça faisait pas légèrement artificiel, parce que ça arrivait dans certaines phases de parcours des Assassin's Creed des premiers, ça faisait un peu artificiel, il faisait des bonds un petit peu bizarres et tout. Là, la fluidité du personnage fait qu'on a vraiment l'impression que waouh, c'est réaliste et c'est génial. Après, c'est pareil, les effets, le nom, la foule, etc. Tu ne peux pas faire la France de la Révolution si tu ne fous pas une foule énorme dans les rues. Et là où je rejoins un tyran, vu que c'est ce que j'avais dit au moment de la conférence, je ne pense pas forcément que ce soit du bullshit, parce que autant Watch Dogs. Au départ, c'était pas du bullshit, parce que la première version était vraiment comme ce qui était à l'E3, sauf qu'il y a eu des problèmes au niveau du studio, au niveau du développement, et en un an, il y a eu tellement de soucis qu'ils ont dû remanier à la va-vite le développement de Watch Dogs pour faire un produit pas fini comme ils voulaient, parce qu'ils avaient des contraintes un peu grosses. De leur propre aveu, ils l'ont annoncé peut-être un petit peu tôt. Autant là, Assassin's Creed sort en
fin d'année,
en octobre.
En fin d'année, ouais. Enfin, fin d'année 2014, octobre, ouais, je crois. Octobre-novembre.
Voilà, c'est voilà. Vu le peu de mois qu'il y a entre la sortie et ces vidéos de gameplay, pour moi, les changements ne vont pas être énormes. Et encore une fois, comme c'est un jeu uniquement fait pour la next gen, ils ont pu se permettre de pousser certaines capacités et de pas rétrograder tout le bordel pour que ça aille sur des Xbox 360 et des PS3. Donc à ce niveau-là, voilà, moi je suis serein. Pour moi, cet Assassin's Creed-là va être intéressant, surtout pour son contexte historique, encore une fois, vu que c'est parfaitement dans l'esprit révolutionnaire un peu qu'ils ont voulu instaurer dans Assassin's Creed 3, qu'ils avaient apparemment malheureusement abandonné dans Assassin's Creed 4. Voilà, c'est il y a certaines une cinématique qui m'a vachement intéressé, c'est le fait de ne même pas tuer la cible, mais juste donner la possibilité aux Français en donnant accès, en brisant des portes qui fermaient l'accès, etc., d'aller eux-mêmes tuer la cible. Donc c'était fait un peu de comme on a appris dans les livres d'histoire, de les révolutionnaires français qui vont eux-mêmes tuer les nobles, etc. Donc avoir cette possibilité de ne même pas tuer toi-même ta cible, mais juste de permettre aux révolutionnaires français de le faire, je trouve que c'est un truc qui est quand même intéressant, et ça rend les assassins encore un peu plus badass, j'ai envie de dire. En tout cas, voilà. C'est pour moi, cet Assassin's Creed-là pourrait être un Assassin's Creed qui révolutionne, attention, un petit peu le truc.
Oula, attention.
Oui, non, c'est pour
ça.
C'est
à leur bout.
Non, je veux dire qu'il révolutionne un peu, qu'il essaye en tout cas de faire évoluer cette notion d'assassinat, c'est de faire un peu d'exprimer un peu la volonté d'Ubisoft de pourquoi pas faire évoluer un petit peu sa série. Et rien que dans le titre, finalement, ça a pas l'air d'être un épisode. En tout cas, c'est pas un épisode canonique, il y a pas de chiffre. Donc ça montre, je pense, après c'est une analyse personnelle, que ça montre une envie du développeur d'amener un petit vent frais dans le bousin. Donc après il faut voir, mais en tout cas moi c'est l'impression que j'ai eue sur les deux vidéos de gameplay.
En tout cas, espérons-le, parce qu'il est quand même temps que la série se renouvelle un peu, quoi. Et je noterai par rapport à la période historique que tout simplement c'est une période historique qui est très peu exploitée dans le jeu vidéo, même pas que dans le jeu vidéo d'ailleurs, et rien que pour ça, je pense que ça vaut le coup d'œil. ATH, encore un jeu peut-être qui t'a fait de l'œil
Sur la conférence Ubi?
N'importe quelle conférence.
Je sais pas, on va dire un jour on a vu du gameplay, on va parler un peu de The Order. Moi ce qui m'a plu déjà c'est l'aspect graphique du titre et le système aussi qui a l'air très très narratif. Et moi faut savoir que les jeux comme Walking Dead et The Last of Us, c'est des jeux qui m'ont plu pas plus par leur gameplay, mais vraiment pour l'aspect scénario qui est travaillé. Et là ça a l'air vraiment pas mal. Et ce qui m'a surpris surtout, c'était le fait de voir le vampire qui se transforme en loup-garou au bout d'un moment, que ça apporte un côté sombre au jeu en fait, et que je n'avais pas vu de premier abord. Au début je pensais que ça allait être un TPS très classique où on tirait sur des mecs et tout ça, même si je savais qu'il allait y avoir des créatures. Mais là on dirait qu'ils ont très inspirés de The Last of Us sur le côté un peu flippant du titre, et surtout que là on a vu que le héros était seul et il n'était plus accompagné. Ça pouvait faire un peu de mimique, mais un espèce de survival horror, tu vois, assez action. Et moi j'ai bien envie de voir ce que ça donne, et cet univers là aussi n'est pas exploité à fond dans le jeu vidéo. Cet univers un peu victorien, je crois qu'on a eu il y a eu quoi que Dishonored en fait, que dont je me souviens récemment.
Il y a eu Tiff, c'était plus c'était du steampunk, c'est médiéval au steampunk, donc
voilà. Donc c'est un univers qu'on voit pas trop, et c'est comme ça va être le premier jeu sur console de Ready at Dawn. J'attends de voir ce que ça va être, et j'espère vraiment être agréablement surpris.
Je vous cacherai pas, vous le savez, ça m'a pas du tout convaincu. J'aime beaucoup l'univers, c'est sûr, mais je suis beaucoup moins convaincu par le gameplay, quoi, on va dire.
Ouais, le gameplay, c'est sûr que surtout quand il fuit la bête là et qu'il tire, et en fait c'est juste pour faire une QTE juste après, pour reprendre de la vie. Tu te dis finalement que s'il retirait ou pas tirait, ça aurait pas changé grand-chose. Ça, je trouve, ça peut être un des travers du jeu. Après, je demande qu'à en voir plus, Mais c'est vraiment en fait l'aspect technique qui se... en fait la cinématique qui se mêle au jeu qui en fait qui me donne la plus grande baffe en fait.
Ouais, mais c'est justement ça, c'est ça qui me gêne en fait. C'est que moi en fait, j'attends vraiment des jeux narratifs mais qui exploitent le gameplay pour raconter une histoire, parce que si vous voulez, moi depuis que j'ai joué à Brothers: The Tale of Two Sons, je me suis pris une claque, mais vraiment c'est ce que j'appelle une claque monumentale. C'est un mec qui vient du cinéma, qui vient t'expliquer par A plus B comment on fait de la narration par le gameplay. Et clairement, en fait, moi je n'attends que ça maintenant. C'est-à-dire que j'en ai marre de voir des jeux où finalement on te raconte de l'histoire par de la cinématique et où enfin tu joues mais pas vraiment, et puis enfin c'est je maintenant j'attends autre chose quoi. Enfin, j'attends qu'on passe à l'étape supérieure, tu vois. Je veux des jeux narratifs, mais pas des jeux narratifs où je suis spectateur, quoi. Enfin, je veux des jeux narratifs où c'est moi l'acteur de l'histoire et où on invente des mécaniques de gameplay comme dans le jeu de rôle papier, où les règles du jeu font que ben tu vas construire tel type d'histoire grâce aux règles du jeu.
Moi, voilà. Ce que je suis d'accord avec
moi,
toi.
Moi, c'est ça que j'attends.
Je suis d'accord avec toi, mais j'aime bien aussi que des jeux. Enfin, j'aimerais pas que tous les jeux fassent ça, par exemple, non plus. Et j'aime bien qu'il y a des cinématiques qui coupent des fois le jeu, justement pour te reposer un petit peu après une séquence intense de combat. Et ça te permet.
Bah, justement, là, pour le coup, pour tout ce qu'on a vu de The Order, je veux dire, c'est pas le jeu le plus intense de l'univers, hein.
Ouais, mais enfin, je sais pas, après, la créature, on sait pas s'il faut lui mettre 25 chargeurs dans la tête, si le combat dure assez longtemps, tu vois, ça peut être pas mal de...
La séquence qu'on a vue, ça dure 2 secondes, ouais, il saute dessus et fin de la cinématique. Bon,
moi, ce que j'aimerais bien, voilà, j'aime bien quand t'as une petite pause, en fait, de temps en temps pour, tu lâches un peu la manette et tu regardes ce qui se passe et après tu reprends pour, ensuite enchaîner l'action, tu vois, vraiment, mais de manière très intense.
Mais ça, tu vois, ça justement, ça c'est pas un jeu narratif, c'est un jeu d'action entrecoupé d'une histoire, c'est pas pareil. Mmh. Moi je te parle d'un jeu, moi ce dont je parle là, pourquoi je suis critique à ce point-là sur The Order, c'est parce que moi j'ai pas l'impression que c'est un jeu d'action. C'est moi j'ai l'impression que c'est un vrai jeu narratif, mais justement qu'on a confondu narration avec cinématique QTE. Hop, cinématique, QTE, voilà, c'est pour ça que je suis critique vis-à-vis de ce jeu. Après, si c'est un pur TPS action et que finalement le côté action des potes et que effectivement on te met une cinématique de respiration pour que ça calme un peu, ok, il y a pas de souci. Mais si c'est un jeu narratif, j'attends d'un jeu narratif, voilà, qu'il y ait des mécaniques de gameplay qui renforcent la narration. Bon, Mamie, tes oui. jeux qui t'ont marqué?
Alors, sur la conférence, sur la conférence Microsoft, je vais en faire un par conf, comme ça on est bien. Le jeu qui m'a marqué, ce serait juste Crackdown, parce que j'aime bien Crackdown, tout bêtement. Et il a l'air d'avoir, je me suis renseigné après, etc. Il a l'air d'avoir un moteur de destruction de décor, donc c'était en fait c'était un trailer, on a vu juste un trailer CGI hier.
Ouais, parce que on précise ça parce que concrètement là c'est de la, ce que va vous dire Mamie, c'est de la promesse, après il faudra voir dans les faits quoi.
Bah non, parce que enfin j'ai vu tourner mais je vais m'expliquer. Donc c'est du trailer CGI dans lequel en fait les agents, donc parce que Crackdown c'est des agents contre des membres de cartels différents, les agents à un moment détruisent complètement un immeuble pour qu'il aille s'écrouler sur l'immeuble du méchant. Et donc tuer le méchant. Donc voilà. Alors au début on s'est dit ce serait vraiment fandard si jamais le jeu avait cette fonctionnalité là. Mais en tout cas voilà, ça fait tout péter, c'est assez rigolo, etc. Il y en a un qui faisait une blague sur le fait qu'on tue 100 000 personnes pour tuer un méchant. Enfin bon. Et en fait je me suis renseigné là-dessus et j'ai vu tourner le moteur, un moteur expérimental, un moteur qui est en train de donc d'être travaillé pour ce jeu. Et j'ai vu en fait il faisait une analyse comparative du moteur avant et du moteur une fois optimisé pour l'instant. C'est impressionnant, c'est tout est cassable, mais absolument tout. Et il peut afficher jusqu'à 30 à 40 000 éléments de décor différents. Donc quand je dis éléments de décor, c'est juste, vous savez, si on vous pète un mur, bah il va tomber en 15 morceaux, bah, ça fait 15 éléments. Ça peut afficher, pour l'instant, dans la vidéo, ça allait jusqu'à 40 000 en restant en 30 fps, et des trucs qui volaient dans tous les sens. Et apparemment, c'est le moteur qui va être utilisé pour ce jeu. Donc, un Crackdown qui joue quand même énormément sur la surenchère de testostérone, etc., puisque les agents sont modifiés génétiquement, sont des clones, etc., qui ont une force énorme, une vitesse de course pas possible, qui font des bonds de 50 mètres, des trucs comme ça. Tu allies ça, pardon, à une destruction de décor énorme, et ça peut faire un jeu extrêmement fun à ce niveau-là. Donc ça, voilà pour Microsoft. Ensuite, il y a eu EA.
Donc pardon.
Quoi?
Donc, pour EA, je vais passer mon tour, et
je me disais, qu'il a retenu un jeu de la conférence EA.
Battlefield, non, et Battlefield.
Battlefield Hardman. Ah oui.
Pour EA, je vais passer mon tour.
Dont on sait déjà tout alors qu'on a même pas vu,
Les Sims 4.
Je vais parler, non, même pas. Je vais juste parler très rapidement du DLC de Dead Rising 3, du coup, qui m'a fait bien marrer, et il m'a marqué pour ça, c'est cette autodérision de Capcom en appelant le jeu avec un nom beaucoup trop long pour que je puisse le prononcer, à base d'hyper édition Alpha Plus, etc. Enfin, c'était vraiment marrant, et en plus le gameplay avait l'air extrêmement fun et rapide, où il fallait, ça avait l'air d'être un jeu où il fallait détruire le plus de zombies possible à 4 en même temps. Avec un scoring et tout, ça avait l'air intéressant. Donc voilà, pour la conférence EA, c'est pas dans la conférence EA, mais bon, il y a rien à en dire. Pour la conférence Ubisoft, c'est le Rainbow Six qui m'a marqué, parce que j'aime bien Rainbow Six. Et encore une fois, Check Tyrant était d'accord avec moi, on en a pas mal parlé. Cette destruction des décors et toutes les applications stratégiques qu'il y a dedans, c'est-à-dire que par exemple, voilà, ça ressemblait un peu à du Counter. Il y avait un otage à récupérer qui était dans une maison, et il y avait des terroristes et des antiterroristes. Les terroristes, ils pouvaient renforcer les murs et tout pour qu'ils aient une durabilité un peu plus longue. Et le but des antiterroristes, c'était, il y avait une vision avec une petite caméra espion qui permettait un peu de faire du mapping de la maison pour savoir où ils avaient placé leur défense et puis toutes les stratégies possibles d'entrer dans la maison. Et ensuite, donc, c'était la phase d'assaut qui durait pas longtemps, hein, je crois que c'était 3 minutes. Ils avaient 3 minutes pour prendre l'otage et l'emmener loin pour la faire sortir de la maison. Et la mort était définitive comme dans un Counter. Et là où c'était intéressant, donc, c'était dans ces fameuses phases d'approche stratégique, ce qu'on aime particulièrement dans un Rainbow Six, du coup, c'est que par exemple, à un moment, il y avait un des antiterroristes qui était dans une pièce, et en dessous, il y avait l'otage avec des terroristes, et le mec fait exploser le plafond, il passe par le plafond, alors que les terroristes, eux, gardaient la porte de la pièce où ils étaient. Et c'est toutes ces implications-là, avec de la destruction de décors, de faire des trous dans les murs pour pouvoir viser dans le couloir qu'il y a derrière, etc., qui me semble extrêmement intéressant. Et le jeu, bien joué, et joué de manière très stratégique, promet, à mon avis, des matchs d'anthologie à ce niveau-là, quoi.
D'accord.
Effectivement.
Et Nintendo. Enfin, Sony, quand même, avant.
Sony.
Sony, il y en a eu tellement.
D'ailleurs, tu vas t'acheter une PS4.
Par contre, on va pas tous les faire, je te préviens. Ou alors, tu les cites et on t'en choisit un, mais...
Non, j'en choisis qu'un, justement.
D'ailleurs, Mamie, tu peux le dire, tu vas acheter une PlayStation 4 ou pas?
On achètera une PlayStation 4. je le dis sans honte. De toute façon, on aura toutes les consoles à la fin, mais ça commencera par PS4. Il y a eu énormément de choses, mais le jeu qui m'a le plus marqué, c'était quand même No Man's Sky. C'est ce système de un peu à la Starbound de création procédurale de planètes complètement en 3D où on peut switcher 100 temps de chargement apparemment. Tu sors de la planète, tu sors de l'orbite de la planète pour aller te fighter dans l'espace et tout. Enfin, voilà, je vais pas en dire en long, large, en travers, mais en plus avec une DA à tomber par terre, etc. Enfin, ce jeu-là m'a bluffé, quoi. Vraiment. Et enfin, Nintendo. Eh ben Nintendo, c'est le on a déjà parlé du Splatoon, donc je vais pas en parler, mais c'est beaucoup, c'est quand même le nouveau Zelda, même si on en a pas vu grand chose, mais la direction artistique avec une espèce de compromis, comme on disait tout à l'heure, parfait entre un Wind Waker et un Zelda, on va dire un peu plus classique, me bluffe, et le monstre avait un putain de chara-design aussi, et il y a une espèce, on a l'impression qu'ils vont un peu dans une espèce de fantastique semi-science-fiction. Il avait des flèches un peu à énergie, etc. Je sais pas, je pense que ça peut donner un truc intéressant, et en plus un Zelda, ils nous promettent un open world vaste et avec beaucoup de choses à faire dedans. Donc Zelda en open world, ça a toujours été plus ou moins d'open world, sauf que c'était petit, quoi, vu que c'était quand
parce
même
N64. Parce que bon, Wind Waker, c'est l'open world, hein, concrètement.
Voilà, mais c'était beaucoup d'eau, donc pas bon, enfin, voilà. Donc là, voilà, ce Zelda-là, puis c'est un Zelda, quoi, donc voilà, il m'a marqué.
Je peux dire un mot sur le Zelda aussi?
Vas-y, je pense qu'on va tous y arriver de toute façon là.
Non mais parce qu'en fait The Legend of Zelda, c'est en fait Ocarina of Time, c'est mon jeu préféré avec le premier MGS, on va dire. Et là quand j'ai vu la bande-annonce, je vois déjà le titre The Legend of Zelda, je me fais bon, j'arrête de trembler un petit peu là, c'est le moment où jamais où Nintendo doit vendre du rêve. Et puis là, il l'annonce quand même, et le titre d'ailleurs, c'est juste The Legend of Zelda, on n'a pas de sous-titre pour le moment.
Ah ça c'est la nouvelle mode.
Ouais. Et donc je commence à regarder un petit peu, et au début je vois le plan qui est derrière Satoru Iwata, et je me dis que c'est une image, mais c'est une cinématique quoi qu'on voit derrière. Et au bout d'un moment il fait bon allez, c'est le moment de bouger, et là tu vois Link qui est sur son cheval et il commence à bouger, et en fait c'était le jeu. Et tu te dis.
Bah, après faut voir si c'est vraiment le jeu ou si c'est du pré-rendu,
ouais,
etc.
Ouais.
Voilà.
Mais en tout cas. On peut, même si c'est une cinématique, on va dire que ça donne une idée visuellement de ce que ça va être en termes de design du jeu. Et c'est sûr que bah le nouveau Link et tout ça, c'est une patte, on va dire, un peu entre le Wind Waker et un peu Ocarina of Time, le mélange des deux, qui donne cet aspect particulier à ce jeu-là. Et puis moi, c'est un jeu que j'attends le plus, parce que j'aurais pu dire Smash Bros, mais Smash Bros, je savais déjà qu'il existait, donc je m'en fous maintenant, tu vois, je sais que je l'aurai Day One, mais... Zelda, c'est vraiment pour moi à chaque fois, tous les Zelda, c'est une grande surprise, même s'il y en a qui sont plus ou moins réussis que d'autres, c'est toujours un excellent moment que je passe là-dessus.
Tout à fait. Bon, pour conclure, c'est à mon tour. Donc moi le jeu qui m'a le plus intéressé, bon, je pense que ça va surprendre personne, c'est No Man's Sky.
C'est pas Hyrule Warrior.
Bah oui.
No Man's Sky, pourquoi? Parce que déjà sur le plan de la DA, bon, c'est un truc, je veux dire, c'est, il y a de la couleur, etc. Parce que ça m'attire beaucoup. Et en plus, je me suis renseigné un peu sur ce qu'ils voulaient faire en termes de gameplay, parce que il faut dire que la vidéo quand même est assez nébuleuse, mis à part le fait que ça ressemble à du Elite de loin et que c'est à peu près tout, quoi. On sait pas trop ce qu'on va faire dedans. Apparemment, ce qu'ils veulent faire avec ce jeu, c'est un roguelike, en fait. C'est pas du tout, moi je m'imaginais que c'était du Starbound, etc. Enfin, voilà, j'imaginais qu'on allait jouer en coop avec Morden, enfin, ce genre de choses, mais pas du tout, en fait. C'est vraiment un roguelike où, en fait, le but, c'est, tu commences aux abords de la Terre, en fait, et ton but, c'est d'atteindre le centre de la galaxie, et tu vas devoir survivre, quoi. C'est vraiment un pur roguelike. Alors, pour le coup, j'attends de voir, quelle mécanique on va avoir au niveau des combats spatiaux, parce que pour le coup, si c'est un roguelike, il faut que les combats soient intéressants et qu'il y ait suffisamment de challenge pour qu'on se dise que, voilà, j'ai survécu, tu vois, enfin, je suis encore vivant. Bon, maintenant, faut tenir jusqu'à la prochaine planète, etc. Dans tout le cas, j'ai été bluffé, par leur, techno qui permet, enfin, de faire du contenu procédural. Franchement, c'est voilà, j'ai vu le truc, c'est bluffant, quoi. C'est pas comme Starbound où, si tu veux, tu retrouves pas mal de pattern à chaque planète, etc. Là, je trouve que, en tout cas, sur ce qu'on a vu, faudra voir si ça sera bien le cas dans le jeu final. Les décors qu'on traversait avaient une vraie identité, ce d'autant plus que d'une planète à l'autre, c'était pas la même chose, et ce d'autant plus que la sortie dans la stratosphère, etc., c'était vraiment, oula, pour un fan de jeux spatiaux comme moi, c'est un moment de jouissance absolument, voilà, vraiment, c'est un jeu que je vais surveiller de très très près, même si, attention messieurs, vous vendez du rêve, là, va falloir se monter à la hauteur de vos promesses. Voilà. Quelque chose à ajouter, messieurs?
Ben non, hein, très clairement, No Man's Sky, après on l'avait déjà vu un peu au VGX, mais c'est vrai que, quelle claque, c'est vrai que quand il sort de la stratosphère, t'es là, ah oui, c'est comme ça. C'est
comme ça.
Voilà. Non, non, mais franchement très, très impressionnant. Et après, est-ce qu'il y a autre chose là pour le 3 en général? C'est vrai qu'il, bah, c'est peut-être ce que t'allais dire là, la conclusion.
Bah, pour la conclusion, j'ai envie de dire que le 3 ne fait que commencer, parce que apparemment Nintendo a décidé de faire des trucs en dehors de sa conférence. Là, apparemment, il y a un Star Fox qui va arriver comme
voilà,
ça.
Voilà, tranquille.
Tranquille. Franchement, on était trop des beaux gosses, tu vois, pendant notre conférence, donc du coup, on va faire des trucs en dehors de notre conférence. Enfin bref, c'est non, mais voilà, c'est Nintendo impérial pour le moment. Du coup, je me demande si Microsoft a des cartouches en réserve, parce que là, pour le coup, moi, en tout cas, j'ai été déçu de la conférence de Microsoft, parce qu'il faut dire aussi qu'il y avait une attente autour de Microsoft.
Ils avaient tellement teasé avant, en fait.
Bah, le truc, c'est qu'ils étaient là en mode, ouais, Sony, on vous souhaite un bon E3. Genre, sous-entendu, tu vois. Je vais niquer la ta race. Tu vas voir ce que je vais te mettre. Puis on a vu la conférence, puis bon. C'était pas une mauvaise conférence, encore une fois, mais c'est juste que ça fait tellement tiède par rapport aux deux autres.
Non, mais en même temps, si Microsoft, ils avaient eu des exclus, je pense qu'ils les auraient montrés à leur conférence, ils les auraient pas montrés sur le show floor comme ça, à part peut-être des trucs en behind closed door, qu'on verra pas nous, mais, s'ils avaient vraiment des exclus qu'ils voulaient montrer, qui allaient être annoncés, ça va pas être annoncé sur le salon. T'as des exclus, tu les montes, sur scène, parce que c'est là où tout le monde va regarder, pourquoi il a acheté la Xbox One.
Et c'est là où il y a tous les journalistes, voilà, généralistes, tout simplement. Star Fox, à la limite, tu vois, bon, on peut dire ce qu'on veut, mais Star Fox, c'est pas une licence aussi populaire que Mario. Enfin, je parle par rapport au grand public, hein, pas par rapport aux joueurs qui réclament, depuis des années un truc. Voilà, Nintendo peut se permettre, tu vois, d'annoncer aussi un Mario Party en dehors de sa conférence, d'annoncer un Star Fox. Voilà, c'est des trucs qu'ils peuvent se permettre. Alors que Microsoft, je pense que s'ils avaient vraiment eu le gros truc, The Big One, ils l'auraient fait pendant la conférence. Enfin, sinon, ça me paraît un peu bizarre.
Ouais, c'est comme Sony, c'est pareil. Hein, s'ils ont une autre exclu, tu vois, ils vont pas la montrer. c'est pareil que Microsoft. Ils se permettraient pas de montrer des jeux id de tertiaire
d'ailleurs,
et aussi une exclu sur le show floor. Ouais.
Juste par rapport à Sony, qu'est-ce que vous avez pensé du Uncharted, enfin le...
Bah, c'est une vidéo, mais c'est très beau, mais c'est une cinématique, quoi. Donc, Uncharted, on sait que Naughty Dog, c'est un peu des brutasses sur console, comme Epic, ils font, voilà, à chaque fois, ils arrivent à
faire la gueule. Parce que là, s'ils arrivent à faire ça, enfin, même un rendu proche de ce qu'on a, sachant qu'ils nous ont dit, oui, que ça, c'est une capture qui a été faite sur PS4, c'est quand même très violent, ils le disent toujours, tu vois.
C'est comme Uncharted 2, t'as des cinématiques, elles sont plus belles que le jeu, et c'est une cinématique qui tourne sur PS3. Après, tu peux mettre n'importe quelle cinématique sur PS3.
Même si c'est la cinématique in-engine, je veux dire.
Non, c'est pas du in-engine.
Après, messieurs, en dehors du débat technique, je veux dire, est-ce que c'est vraiment le plus important, quoi? Parce que, Uncharted, moi je m'en rappelle de certains tests, etc., les gens commençaient à dire, ouais, ça commence à tourner un peu en rond quand même, cette histoire, quoi. Alors, oui, la cinématique, oui, ça va être plus beau, ok, mais qu'est-ce qu'ils vont apporter avec cet épisode, en dehors de la claque technique? Moi, je veux bien, on sait que Naughty Dog sait faire des claques techniques, je veux dire, c'est bon, hein, ils ont fait The Last of Us, on a compris, voilà, c'est les boss, voilà, voilà. Maintenant, what's next, quoi? Parce que Uncharted, oui, on en est au 4e épisode, voilà, moi, c'est ce que je constate, Uncharted 4.
Ouais, mais après,
donc, c'est quoi la nouveauté?
C'est comme Gear of War ou Halo, on est au 5e. Quand t'achètes une licence Halo, tu veux retrouver du Halo, tu veux pas jouer à Halo et te retrouver avec du Mass Effect, par exemple, tu vois.
Ouais, mais Halo, tu vois, ce qui m'intéresse dans Halo, c'est qu'à chaque nouvel épisode, je découvre un peu plus du background de la série, etc., les Forerunners. Les gens peuvent se foutre de ma gueule s'ils veulent, mais moi, c'est un des trucs qui fait que je joue à Halo, quoi. C'est un des rares FPS qui a un background intéressant que je découvre à chaque épisode, et le jour où j'estimerai que, bon, c'est bon, l'univers, j'en ai fait le tour, j'arrêterai de jouer à Halo. Alors que Uncharted, bon, j'ai l'impression, en fait, qu'à chaque épisode, c'est un remake d'Indiana Jones. Alors, moi, je sais pas, peut-être que je raconte de la connerie, qu'il y a un background qui est vraiment intéressant,
pour le background, hein. C'est le mec qui me dit qu'il joue Uncharted pour le background, quoi. J'ai juste envie de lui mettre une gifle parce qu'il se fout de ma gueule. Mais, Uncharted, tu joues parce que c'est hollywoodien. C'est, voilà, tu t'en prends plein la gueule. C'est aussi drôle dans les cinématiques. Nathan Drake et ça, c'est un peu le Pierre Richard du jeu vidéo, quoi. Et puis voilà, tu joues pour ça. Tu joues pas pour le scénario. C'est, d'ailleurs, le scénario, il est totalement bidon. Le méchant, à la fin, il est toujours nul. Mais c'est vraiment du début jusqu'à la fin. T'es là pour prendre ton pied. comme si tu allais au cinéma passer voir un film d'action, tu t'en fous, tu t'oublies le reste, et c'est ça qui plaît aux gens, je pense, dans Uncharted.
Mamie, tiens, je voulais te poser une question avant que on ferme le rideau. J'ai remarqué ton enthousiasme durant la seconde partie de la conférence de Sony quand ils annonçaient quelques petites features par rapport au PSN, au Gaikai, enfin ce genre de choses. Est-ce que tu voudrais peut-être nous en glisser un mot quand même?
Ben oui, alors à mon grand étonnement, sur toutes les réactions que j'ai pu lire depuis, tout le monde se plaint de cette partie-là.
Dont moi.
Notamment que oui, dont toi, voilà, en disant que le mec parlait de choses inintéressantes, et il parlait mal, etc. Moi, au contraire, j'ai trouvé que c'était peut-être l'intervenant le plus charismatique de la conférence.
Alors, et moi, par contre, je trouve que l'intervenant lui-même, il faisait bien son boulot, je trouve.
Ouais, voilà.
Après, bon, le truc, c'est que moi, je suis pas forcément le public cible de cette feature-là, c'est ça le truc. Voilà.
Ah non, bien sûr, mais après, donc, il nous a balancé les chiffres, voilà, c'était la période, comme disait Dwayne, la période Camembert. vous balancez toutes les stats. Alors oui, bon, certes, c'était pas intéressant, mais disons que ça pouvait être intéressant pour certaines personnes, parce que un joueur, il joue, certes, mais le hardware devrait l'intéresser un minimum. Et là, donc, il annonce un nouveau hardware qui est pour 99$, donc je suppose 99€ par chez nous.
Enfin, nouveau. Il est pas nouveau. Il est déjà sorti au Japon depuis belle lurette. C'est la PlayStation Vita TV dont tu parles.
Oui, non, mais nouveau chez nous.
Enfin, la PlayStation TV, enfin, pas Vita TV, la PlayStation TV. Voilà, nouveau chez nous, voilà.
Oui, voilà, de nouveau chez nous. L'espèce de boîtier, là. Qui permet notamment d'avoir accès à la bibliothèque Sony de beaucoup de jeux PS3, que ce soit sur ta PS4, ou ta PS3, bien entendu, ou ta PS Vita. Pour moi, via ce qu'ils appellent le PlayStation Now, donc leur service de streaming à la Gaikai, donc c'est pas du streaming comme Twitch où on balance sa vidéo, mais c'est du streaming de jeu, donc le jeu va tourner sur un hardware qui est pas le vôtre, et vous avez juste l'image qui vient sur votre console et vos inputs console qui partent vers ce serveur, et donc en gros ça vous permet de jouer à des jeux sans avoir à l'installer sur votre propre machine, comme le faisait Unlive ou Gaikai à l'époque sur PC. Moi je trouve ça extrêmement intéressant puisque la PlayStation 4 n'est pas rétro-compatible, et pour quelqu'un, je sais que je parle toujours de ces gens-là, de ceux qui ont leur première console sur les consoles current gen maintenant, donc le mec, sa première console c'est une PS4, il a un pool de jeux non joués qui sont sortis sur PS2, PS3, PS1, etc. énorme, et ce système-là pourrait très bien lui permettre de jouer à des jeux sans se taper des HD Remix ou des Ultimate Edition ou des trucs comme ça. Donc c'est pour
ce
moi.
Que voilà, moi, ce mec, celui-là, je lui dis, en fait, faut pas que tu joues sur console, faut que tu joues sur PC, que tu joues sur l'émulateur.
Bien sûr, mais tout le monde n'a pas forcément un PC qui fait tourner un émulateur PS2. Et l'émulateur PS3, pour l'instant, bon, voilà, c'est pas
non,
ça.
Non mais je sais, je prêche pour ma paroisse aussi, donc.
Non mais je suis tout à fait d'accord. L'émulation en soi c'est bien, mais l'émulation a tout de même toujours quelques années de retard parce qu'il faut faire tourner des machines de plus en plus puissantes sur des PC. Maintenant, pour moi c'est très intéressant de pouvoir permettre aux joueurs, avant c'était facile, il suffisait de mettre le CD de la console dedans, maintenant c'est plus la même chose vu que les architectures changent pas mal d'une machine à l'autre, de pouvoir permettre à des gens qui n'ont pas eu de PS3 et qui n'ont qu'une PS4 de pouvoir jouer à des jeux PS3 sans en plus, bon il faut une bonne connexion internet bien entendu vu que c'est du streaming, mais t'as pas le problème de place, parce que c'était un des arguments de ou des gens pour démonter les nouvelles consoles qui étaient leurs disques durs sont assez petits pour des jeux qui pèsent maintenant 20, 30, 40 gigas et avec installation quasiment obligatoire si tu veux pas te taper, surtout chez Sony, des temps de chargement de 5 heures. Donc voilà, moi je trouve ça intéressant. J'étais très content de cette partie-là de la conférence aussi, parce que Sony n'ayant absolument pas communiqué sur quoi que ce soit avant l'E3, c'était le bon endroit pour le faire, surtout qu'en plus ils avaient bien géré le rythme en balançant une tonne de jeux juste avant avec voilà des annonces qui choquaient un peu tout le monde et placer ça au milieu de la conférence pour finir avec des trailers gameplay intéressants. Moi je trouvais que la gestion du rythme était géniale, Et en plus, voilà, cette fonctionnalité, pour moi, est extrêmement intéressante, sachant que il me semble que c'est en lien avec le PlayStation Plus aussi, l'accès à PS Now, pardon, et surtout pour les possesseurs de Vita, qui n'ont malheureusement pas eu d'annonce pour eux, le fait de pouvoir faire des jeux PS3 sur sa PS Vita peut être aussi quelque chose d'intéressant, à mon sens.
Oh, et la PlayStation Vita, ils ont des jeux indés, puis voilà, quoi, c'est...
Cette partie de la conférence, en fait, pour moi, elle avait rien à faire ici, en fait, par rapport à tous les jeux qui étaient présentés. C'est pour dire à quel point c'était passionnant, que ça a tellement tué le rythme que Tyran est parti se coucher juste après ça, quoi.
Non, mais moi, pourquoi je suis parti me coucher? Enfin, cette feature ne m'intéresse absolument
pas. J'ai failli m'endormir,
moi aussi. C'est simple. Je suis un joueur PC, j'ai accès à tous les émulateurs que je veux. Déjà, ça, c'est le premier point. Et le second point, c'est que je suis extrêmement dubitatif de la viabilité de cette techno, en fait. Pourquoi? Parce que, je vous rappelle qu'il y a pas mal de débats en ce moment par rapport à la neutralité du net, tout ça, le fait que les fournisseurs d'accès font de plus en plus pression sur les fournisseurs de services pour que notamment YouTube les rémunère parce que ils en ont un peu marre, tu vois, que tout passe par leurs tuyaux et que ce soit eux qui doivent payer pour agrandir les tuyaux, ce genre de choses. Et c'est pour ça notamment qu'on se retrouve avec des fournisseurs d'accès genre Free, tu vois, où YouTube marche bizarrement extrêmement mal, tu vois, ou même Orange qui bizarrement possède Dailymotion et du coup YouTube ça marche pas très bien des fois, tu sais, chez eux, enfin ce genre de choses. Moi, je vous dis que si ce genre d'initiative se popularise, j'étais déjà super sceptique du temps de OnLive et de Gaikai, à un moment donné, il y a les FAI qui vont aller voir Monsieur Sony, Monsieur Machin, et qui vont dire, bon, maintenant, vous êtes bien gentil, si vous voulez que vos jeux, ça tourne bien chez moi, va falloir payer. Et maintenant, après, on va voir, tu vois, si... Parce que là, on est en train de faire des trucs où, en gros, on t'envoie masse de données par un tuyau, donc qui passe par l'Atlantique, et ça va aller dans des data centers à l'autre bout du monde, là. Et on va voir. Moi, je suis dubitatif. En plus, sur la techno, j'ai toujours été extrêmement circonspect vis-à-vis de l'avenir du streaming en général. Voilà. Bon, mais sinon, voilà, enfin, c'est pas des features qui m'intéressent. C'est tout. Donc, forcément, je m'emmerde. Alors, là où je suis pas d'accord avec ATH, c'est que je pense que ça avait sa place dans sa conférence. Parce que s'il annonce pas le 3, je veux dire, enfin, voilà, quoi.
D'accord. Et on va voir si tu seras toujours pas d'accord avec moi. Est-ce que ça avait sa place pendant 40 bonnes minutes et que ça met un plomb au rythme comme ça lors de la conférence?
Ça, on est d'accord. Je suis d'accord.
Non, mais moi, parce que moi, qui le présente, ça dure 10 minutes, je veux bien. Mais tu montes pendant une heure un truc de folie. Ça envoie du lourd et tout ça, ou bien au pire tu commences par ça et comme ça après les trucs chiants c'est passé, après on passe à autre chose.
Mais je pense que ATH qui t'a déçu aussi, c'est que moi en fait, tu vois, j'étais tellement hypé au début de la conférence que pour moi ça a été une douche froide en fait. C'est aussi ça le truc. C'est en fait je me disais, oh putain là c'est fou, il reste une heure, tu vois, et pendant une heure, vu comment ça a été jusqu'à maintenant... ça va être la folie, quoi. Ils vont faire un truc, mais...
Ah, mais moi, le pire, moi, c'est que je le savais.
Et puis, d'un seul coup, t'as eu ça, tu vois.
Mais moi, je le savais.
Pour moi, en fait, ça a cassé la dynamique, en fait. C'est-à-dire que, je pense qu'en fait, ils l'ont mis au mauvais moment. Ils ont peut-être dû le mettre au début, tu vois. Puis après, on monte en gamme, puis le grand final, tu vois. Là, bon, après, le truc, c'est que, oui, je pense qu'en tout cas, quoi qu'il arrive, on aurait râlé parce qu'on est des râleurs et que ça nous intéresse pas. Mais on aurait dit, au moins, tu vois, on a eu tous les jeux d'un coup. Puis voilà, on a eu le final, l'explosion en bouche, tu vois. Moi, honnêtement, quand j'ai vu les annonces qu'il y a après, t'as Dwayne qui m'a dit, non, mais viens, le reste, Tyran, il y a Uncharted. Franchement, si j'étais resté, j'aurais gueulé, hein. Parce que Uncharted, voir de la cinématique, franchement, ça m'intéresse pas, mais d'une force. Voilà.
Il y avait Batman, c'était bien Batman.
Ouais, c'était bien, mais Batman, c'est une licence que j'aime bien, que je trouve sympathique, mais c'est pas un truc c'est pas ça qui va me hyper, tu vois. Moi, je suis assez spécial, hein, je veux dire, j'aime les RPG un peu velus, etc. Enfin, je suis un vieux con, moi, de toute façon. Voilà, c'est pas, moi, je trouve qu'en fait, ils ont fait cette coupure-là. Et que en fait les gens étaient tellement hypés par le début de la conférence que en fait ça a cassé la hype, quoi, je pense.
Mais moi je savais très bien qu'il y allait avoir
ça. Je trouve, pour justement, tu vois, eux, ils ont géré la hype, tu vois.
Ah,
ça commence. Bam, 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 bim, grand final à la fin, Miyamoto qui soude la gueule de tout le monde. Je suis en train de jouer à un jeu là où, attention, je vous dis pas ce que c'est, mais attention, c'est très bien, hein. Voilà, fin de la conférence. Tout le monde sait que c'est Star Fox. Et puis là, on est tous des fous. Là, on va finir de notre podcast. Ils vont aller tous aller voir le trailer de Star Fox, quoi. C'est tout. Point.
Voilà. Bah, c'est normal.
D'ailleurs, c'est dans 5 minutes, là, au moment où on enregistre.
Ah, il faut finir, alors.
Oui, non, mais je me permets quand même de dire une chose. Nintendo, certes, était très bien, et je suis premier à dire que là, ils ont gagné largement au niveau de la hype. Mais encore une fois, c'est une vidéo qui est tournée à l'avance.
Et encore une fois, je n'en ai rien à cirer.
Non,
j'en ai rien à cirer.
Mais oui, non, mais.
Mamie, qu'est-ce que tu veux, j'en ai à foutre. Moi, que ce soit une vidéo, tournée en avance ou une conférence, mais c'est eux qui ont choisi leur stratégie, ils ont choisi la bonne stratégie, ils ont pas fait une conférence,
oui,
ok. Sauf que c'était mieux qu'une conférence.
Il n'empêche que tu ne peux.
Laissons la parole à la défense, monsieur Chiopo.
Mais non, mais il n'empêche que tu ne peux absolument pas comparer une conférence à une vidéo sur le rythme, etc. En plus, le Nintendo Direct a duré 50 minutes.
Voilà, il y a eu 50 minutes, mais combien d'annonces? Combien d'annonces?
Oui,
combien d'annonces à la conférence Microsoft qui a duré 1h30, putain?
Prends la conférence Sony qui a duré 2 heures et prends la première heure de la conférence Sony. Si tu ne prends que la première heure de la conférence Sony, ils ont aussi bien géré la hype que Nintendo.
Et combien de jeux qui sortiront sur PC? Voilà. Non, mais il y a aussi ça. Moi, pourquoi la conférence Nintendo m'a hypé? Parce que je sais que je ne les aurai pas sur PC, ces putains de jeux, quoi.
Bon, c'est bon. On va arrêter là.
La conférence Sony, quel est le seul jeu exclusif qui m'intéresse? Le jeu dont on a vu une cinématique. Le reste, c'est du multi-support. C'est du multi-support,
oui,
je serai sur PC.
Je vois.
Oui, à un moment donné, le but c'est quand même de vendre des consoles, quoi. Je veux dire, et concrètement, celui qui m'a vendu sa console aujourd'hui, alors oui, ok, c'était pas une conférence, bah c'est Nintendo. Là, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je me dis, si un jour je dois prendre une console en complément de mon PC, ce sera ni la PS4, ce sera ni la Xbox 360, parce que la plupart des jeux qui m'intéressent, ils sortent sur PC. Ce sera la Wii U. Parce que ils ont envoyé du rêve, quoi. Ils ont envoyé du rêve aujourd'hui. C'est tout.
Là-dessus, je suis d'accord, mais c'est juste que on commence à descendre. C'est ça que je défends. C'est la conférence Sony, parce que ça m'énerve que les gens descendent ces fameuses 40, même si c'était plus 30 à mon avis, minutes du milieu, compare maintenant à Nintendo.
Alors qu'on soit clair, je dis pas que la conférence Sony était merdique. C'était une conférence extraordinaire. La conférence, la première heure, était extraordinaire. Juste, je suis honnête, je me suis fait chier pendant ces 40 minutes. Je vais pas dire que c'était absolument génial alors que je me suis fait chier pendant comme un rat mort. Bon, après, c'est vrai, les gens commencent à descendre la conférence. Oui, c'était Sony, machin.
Attendez.
Ok, mais il n'empêche que objectivement, après, si on fait juste le match Sony-Microsoft, tout le monde sait que Sony a éclaté Microsoft. Voilà, il y a même pas débat, quoi.
Parce que là, vous dites que la conférence Sony a été descendue, mais j'ai un sondage sous les yeux où on demande laquelle des conférences E3 a été préférée. Alors, pour 12,6%, on a Microsoft. Il y en a 3,5% qui ont aimé EA. Ubisoft, c'est 16,6%. Sony, c'est donc la plus grande conférence qui a été appréciée, c'est 24,4%. Nintendo, 21,9%. Et le reste, c'était 8,2% qui a dit que je n'ai trouvé aucune conférence de bien. Et c'est un sondage qui vient de jeuxvideo.com. Voilà.
D'accord.
Voilà. Oui. Bon, Nintendo, pourquoi ils nous ont hypé aussi, c'est parce que, quand je disais au début, en fait, ils ont répondu à la liste du Père Noël d'ATH, tu vois. On a une nouvelle licence.
Merci.
On a eu pratiquement tout ce qu'on demandait. Alors, ok, on n'a pas eu un vrai nouveau
Mario.
On
n'a
pas eu un
Metroid.
On peut pas...
Ouais.
Bon, après, là où j'ai mettrai mes réserves sur la conférence Nintendo, c'est que le Zelda, moi, j'attends de voir si on l'aura en 2015. Hein, parce que, honnêtement, par rapport à ce que j'ai vu dans la conférence Nintendo, je me dis, ok, rendez-vous en 2015.
C'est aussi le truc, quand même. Après, le seul truc, et je sais que je vais me faire descendre derrière en disant ça, moi, le seul truc qui m'a vraiment intéressé chez Nintendo, c'est le fameux Splatoon. Parce que certes, le Legend of Zelda m'intéresse énormément, le Yoshi, franchement, j'en ai rien à faire, mais ça, c'est mon avis, etc. Mais c'est le Splatoon, pourquoi c'est de ça que je voulais parler, et que j'en ai parlé pas mal, c'est parce que c'est la seule c'est le seul vent de fraîcheur qu'il y a eu dans cette conférence Nintendo, et c'est le seul vent de fraîcheur qu'il y a eu dans une conférence Nintendo depuis des années et des années. Et là, c'est là où, finalement, je trouve que, même s'ils font beaucoup de multi-support, Sony et même Microsoft s'en sortent, c'est qu'au moins, ils ont les couilles de faire des nouvelles IP. Bon, certes, des fois qu'ils se plantent, mais il y en a des nouvelles. Et là, je te dis, le Splatoon, c'était le premier nouveau jeu Nintendo depuis combien? Depuis énormément de temps. Et certes, les jeux Nintendo sont bons avec les IP qui sont les mêmes depuis plus de 20 ans, mais ce qui m'énerve un petit peu chez Nintendo, et je suis encore une fois le premier à dire que là-dessus, ils ont vachement défoncé tout le monde, c'est le Mario numéro 15, le Zelda numéro 17, t'as le Super Smash Bros 6, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que
c'est pas tout à fait vrai ce que tu dis. Par exemple, il y a pas si longtemps, on a eu un Xenoblade, hein. Ou par exemple sur Wii, on a eu l'autre jeu qui est typiquement japonais. On a eu des nouvelles IP sur Wii. Hein.
On a eu des nouvelles IP
qui
sur
sont plantées
Wii,
d'ailleurs. Mais
à la mort de la console. Et c'est bien ça le problème. Et on n'a pas fait une. T'es d'accord avec moi qu'on n'a pas fait assez de com autour de ces nouvelles IP. Par rapport à la com qu'on peut faire autour du nouveau Mario.
Ah oui, ça, on est d'accord.
C'est voilà pour moi Pandora's Tower.
Ouais, Pandora's Tower, par exemple. Ce que je reproche à Nintendo, c'est qu'ils ont absolument pas poussé le jeu, quoi. Enfin,
oui, bah,
c'est,
voilà.
C'était à l'époque, tu sais. Enfin, c'était l'époque où ils en avaient rien à cirer des gamers. C'est ça le truc.
Ah, oui,
c'est là bien. Aussi pourquoi Nintendo revient en un espèce d'état de grâce, etc. C'est parce que ils se sont rappelés qu'il y avait ce public-là, les gamers qui... là, on sent enfin, ça y est, ils seraient intéressés un peu aux gamers, tu vois.
Bah, c'est eux qui achètent
et c'est pour
consoles,
ça que Xenoblade est remis en avance pendant la conférence, là, où j'ai... D'ailleurs, c'est assez paradoxal, là, je suis premier à critiquer les cinématiques, mais pour le coup, on a vu que ça sur Xenoblade. Mais je suis tellement un fanboy, gros fanboy de la licence et du machin que c'est passé comme une lettre à la poste. Mais voilà, enfin, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce que je note sur cette E3, c'est que Nintendo a enfin entendu les critiques qu'on peut lui faire depuis 10 ans, quoi. C'est ça aussi qui... Parce que Dieu sait qu'on leur a dit à chaque conférence, mais sérieux, les oui machin truc, là, on en a rien à foutre, putain, mais sérieux, arrêtez.
De toute façon, pour revenir à ce que disait Mamie sur Nintendo, comme quoi, lui, il se plaignait que c'était toujours les mêmes licences qu'on voyait, et que toi, par exemple... Bah, les jeux AAA en général, ça, ils t'intéressaient pas trop, parce que ce qui est important, c'est que voilà, chacun a ses attentes vis-à-vis des jeux, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait le podcast, c'est pour en débattre et dire ce qu'on pense chacun des trucs. Par exemple, moi, je sais que jouer à des AAA, ça me dérange pas. Les indépendants, j'aime bien, mais sans plus, quoi. Ça va pas être le truc.
Alors, la première chose qu'il va faire, c'est pas une question de AAA ou
non,
pas.
Non, mais ouais, mais enfin,
c'est dans une question que au jour d'aujourd'hui, ce qu'on appelle les AAA sont dans un système économique qui fait qu'ils ne peuvent pas se permettre de sortir des trucs totalement obscurs qui m'intéressent. Moi, je suis fan de RPG, mais vachement velu, etc. Le jeu que j'attends le plus cette année, c'est Divinity Original Sin, qui sort à la fin du mois. Je veux dire, aucun éditeur sain d'esprit ne mettra de l'argent là-dedans. Voilà.
C'est là que je voulais venir, c'était que chacun aime son style de jeu particulièrement plus qu'un autre, et que c'est, moi je trouve ça bien que, par exemple, on soit pas d'accord sur un même jeu, ça émet un débat, une critique plus constructive que si on était tous d'accord.
Tout à fait.
Ah ouais, t'as vu le nouveau Halo, c'est génial.
C'est pour ça que j'ai bien précisé qu'en début de podcast que l'E3 n'est pas un salon fait pour moi. C'est
moi, par
un
contre,
salon
moi,
fait
moi,
pour
je
un
sens,
certain public qui n'est pas...
Pour moi, le public de... Enfin, je suis le public cible de l'E3 tout à fait, je l'assume.
Voilà, on est d'accord, il n'y a pas de soucis.
C'est pas une tare, hein, c'est pas une
ah
tare.
Ah non, mais moi, tout le temps, je suis content de jouer, et je veux dire...
On a l'impression qu'un DH a fait son coming out, là, tu sais...
Oui, j'aime l'E3, oui, je l'avoue.
Bon, je vous propose qu'on s'arrête là, parce qu'on est en train de s'éterniser, là.
Oui.
Ouais, en plus, faut que j'aille voir Star Fox, là.
Star Fox. Voilà,
c'est
Star Fox.
C'est intéressant.
Ça se trouve, on dit ça, mais en fait, on va juste voir une vieille vidéo de cinématique.
Ouais, c'est rien dedans.
Bon, allez.
Non, non, là, c'est déjà lancé, là.
Ouais, bah, ouais. Allez, on se casse. Salut.
Salut, ciao.